Le service Orange Monnaie, réception de transfert d'argent depuis la France, vous propose appel sur l'actualité. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous. L'antenne vous appartient. RFI vous donne la parole. Dans 30 minutes, nous dresserons un état des lieux du football africain. Et oui, c'est vendredi déjà que sera donné le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations, la première CAN de l'histoire à 24 équipes. L'occasion ce matin de passer en revue les forces en présence. Dites-nous quels sont les atouts et les faiblesses des équipes qualifiées. Dans quel état d'esprit se trouve votre sélection? D'ailleurs, votre pays a-t-il vraiment des chances de remporter le trophée? Fait, en tout cas, les favoris, selon les experts, les spécialistes, ceux qui s'y connaissent, les favoris de cette édition 2019 sont l'Égypte, le Sénégal, le Maroc et la Côte d'Ivoire. Il y aura certainement des déceptions, on espère évidemment de belles surprises. Vos pronostics ce matin sur RFI, vous nous appelez 33 9 693 693 70 et vous continuez évidemment à poster vos commentaires sur la page Facebook de l'émission. Je vois que les Congolais de République démocratique du Congo se mobilisent sur la page WhatsApp. Beaucoup de réaction pour soutenir les léopards de la RDC. Nous vous donnerons la parole donc dans une trentaine de minutes. D'abord, ce sont vos questions à la rédaction pour mieux comprendre l'actualité. Et on va commencer avec cet ultimatum posé par la Côte d'Ivoire et le Ghana, les deux premiers pays producteurs mondiaux de cacao. Kossi, bonjour. Bienvenue, vous nous appelez de Lomé et c'est une actualité qui ne vous laisse pas indifférent. On vous écoute.
Oui, depuis la semaine passée, le Ghana et la Côte d'Ivoire viennent d'annoncer qu'ils suspendaient la vente de cacao. Ils refusent de vendre en dessous de 2600 dollars la tonne. Mm-hmm. Quel déclenchement à ce propos?
Oui, allez-y.
Première question. De quelle marche de manœuvre disposent les deux pays pour imposer leur prix?
Alors, on va déjà répondre, si vous le permettez, à cette première question. La marge de manœuvre de ces deux pays, qui sont, je le rappelle, les deux principaux producteurs de cacao, et qui souhaitent aujourd'hui peser sur le marché. Plus question de vendre à moins de 2600 dollars la tonne. Bonjour Claire Fage.
Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Kossi, bonjour Juan.
Vous présentez la chronique des matières premières sur RFI. Concrètement, quelle est la marge de manœuvre de ces deux pays pour obtenir gain de cause?
Bien, pour la première fois, ils se sont alliés, ces deux grands voisins, ces deux géants du cacao. Ils étaient jusqu'à présent concurrents. D'ailleurs, ils organisaient plus ou moins officiellement une contrebande de part et d'autre de la frontière en jouant sur le prix au producteur. Quand c'était moins cher dans un pays, évidemment, les fèves allaient de l'autre côté. Mais il y a eu la crise des cours en 2016 et là, ils ont énormément souffert. Le conseil du café cacao en Côte d'Ivoire est exsangue, le cocobot également. Les producteurs sont très mal payés et donc maintenant, ils ont commencé à discuter depuis déjà un an, afficher un front commun. Et là, ils veulent donc, c'est cet ultimatum, obtenir un prix minimum de 2600 dollars pour la récolte 2020-2021. Oui. Celle qui n'a pas encore commencé à être vendue, puisqu'on a toujours au moins un an d'avance dans la commercialisation des fèves. Hein.
Donc, on parle bien d'une suspension des ventes de la récolte prochaine.
Hein. Non, pas celle qui va commencer en octobre 2020, prochain, 21. Mais celle de 2020-21. Voilà. Celle de 2019-2020, elle est déjà vendue.
Elle est déjà vendue, évidemment, et c'est bien de le rappeler. Claire Fage, 2600 dollars la tonne. En ce moment, à combien se vend-elle la tonne?
Eh bien, on peut dire que le contexte est assez favorable, puisque sur les cours de New York qui prévalent en ce moment, le marché est à plus de 2500 dollars. Donc, on n'en est pas très loin. La demande de cacao est forte en ce moment, sur tous les continents. Mmh. Et on a des craintes sur la production. Par exemple, au Ghana, on a un regain de ce qu'on appelle le swollen shoot en anglais. En fait, c'est le virus des cacaoyers qui fait mourir les arbres. Et il y a un regain de cette maladie. Il y a la sécheresse en Côte d'Ivoire. Donc, on se dit que finalement, ça va peut-être être tendu sur le marché mondial.
Et du coup, les industriels sont favorables? Ils sont prêts, eux, à augmenter?
Alors, j'en ai appelé quelques-uns. Et effectivement, ils sont partants. En particulier, le chocolatier français C'est Moi, qui est installé en Côte d'Ivoire. Il a des capacités de broyage là-bas. Et on peut comprendre que ceux qui ont des intérêts industriels en Côte d'Ivoire et au Ghana soient favorables à cette augmentation, étant donné qu'ils veulent s'assurer une bonne part des fèves. Mmh. Parce que ce qui se passe en ce moment en Côte d'Ivoire, c'est qu'on n'a plus ce système de messagerie électronique qui était relativement transparent. Maintenant, la Côte d'Ivoire a abandonné ce système depuis quelques mois, on va dire un an, et elle vend à qui elle veut, quand elle veut.
Il y a quand même un risque, Claire Fage. Je vous ai écouté la semaine dernière, puisque vous avez consacré notamment une de vos chroniques à cette actualité. Il y a un risque que les acheteurs de fèves se tournent finalement vers d'autres pays. Vous citiez le Nigeria, l'Équateur,
le
Cameroun.
Oui, alors pour l'instant, ils sont en mauvaise passe. Vous savez, au Cameroun, au nord du Cameroun, il y a le conflit qui a amputé la récolte de fèves. En Équateur, il y a une espèce de parasite. Bon, disons que la production n'est pas excellente. Au Nigeria, c'est pas aussi bon que prévu non plus, mais ça pourrait changer si le bras de fer dure trop longtemps, que le marché dégringole. Il faudra sur le marché à terme, on compense par des cacaos d'autres origines que le cacao ivoirien et ghanéen s'il est trop cher. Et donc, ça risque d'encourager l'expansion des plantations ailleurs dans le monde, et d'ailleurs la déforestation par la même occasion.
Alors, je vous ai coupé la parole, Kossi, mais vous disiez avoir une deuxième question. Allez-y.
Oui, ma deuxième question est de savoir comment compte-t-il garantir que cette augmentation de prix profite ensuite aux agriculteurs.
Oui, puisqu'il s'agit d'augmenter les prix pour mieux rémunérer les producteurs de cacao.
On est en période préélectorale dans les deux pays, Ghana et Côte d'Ivoire. Alors d'après un négociant, il serait question de garantir non plus 60% mais 70% du prix des fèves, c'est-à-dire 70% de 2 600 $, si on fait la conversion, etc. On arrive à 1055 francs CFA contre 750 francs aujourd'hui. Donc ça serait une augmentation très substantielle.
L'industrie... 750, c'est le prix garanti par l'État,
oui,
notamment
mais
en Côte d'Ivoire.
Oui, mais
voilà, qui n'est pas toujours respecté, faut le dire. Oui.
Parce qu'effectivement, ils sont payés avec le prix de la vente de la récolte d'il y a un an. Mmh. Donc les prix étaient mauvais, les prix mondiaux étaient mauvais à l'époque. Mais là, le marché est plus favorable. Donc c'est peut-être possible. Mais il va falloir que sur les 30% restants, l'industrie, les intermédiaires et les États qui prélèvent des taxes se répartissent le restant. Et c'est tout l'enjeu des négociations en cours dans la filière.
À suivre donc, en tout cas si le sujet vous intéresse, et je sais que vous êtes nombreux à réagir sur le site RFI.fr, sachez que ce soir, Décryptage avec Marie Cazadebé sera consacré justement à ce bras de fer que se livrent la Côte d'Ivoire et le Ghana pour essayer d'augmenter les prix du cacao. Invité spécial tout à l'heure, François Ruff, économiste du CIRAD. François Ruff, disons-le, c'est le spécialiste du cacao.
Oui, et il y aura également... Philippe Chalmin, en studio, qui est spécialiste des marchés de matières premières.
Merci beaucoup, Claire Fage. Kossi, nous vous souhaitons une belle journée à Lomé, au Togo. Il est 10h18 à Paris. Vos questions 33 9 693 693 70. Elcio Ramalho, de la rédaction brésilienne de RFI, nous rejoint à l'instant même. Bonjour, Elcio.
Bonjour, Juan.
Soyez le bienvenu. On a reçu des questions concernant les déboires de Sergio Moro. Sergio Moro, ce juge anticorruption qui a obtenu la condamnation de Lula à 9 ans de prison pour corruption, et eh bien maintenant il est accusé d'être impartial, d'avoir été impartial dans cette condamnation. C'est l'un des sujets qui fait le plus polémique en ce moment au Brésil. Et Marius a des questions à vous poser. Bonjour Marius.
Bonjour Monsieur Juan Gomez. Je voulais profiter pour dire bonjour à l'ex-correspondant de RFI en RDC, Kassongo Mwemba Nyamba Nyamba.
Eh bien si on l'écoute, on le salue évidemment au passage. Vos questions Marius.
Ok, des révélations ont été faites sur des conversations confidentielles entre le juge Moro et le procureur sur l'affaire de corruption de l'ex-président Lula, condamné à 8 ans de prison. Alors, ces révélations sont-elles à même de permettre la libération de Lula? Que risque l'ancien juge Moro, actuellement ministre de la Défense?
Alors, je le disais, Sergio Moro, juge anticorruption, devenu ministre de la Justice, il est pointé du doigt, on l'accuse de ne pas avoir été impartial, lors du procès contre Lula. Ce sont des révélations faites par un site d'investigation américain, c'est bien ça, le CEO?
C'est Intercept Brésil, en fait, qui dévoile beaucoup d'échanges entre Sergio Moro et les procureurs chefs de l'opération Lavage Express, qui a été connu comme Lava lavage express, lavage jato au Brésil. Donc, ce sont des échanges entre 2015 et 2018 entre ces deux hommes. Ce sont authentifiés par les sites Intercept. Donc, ils montrent notamment le juge Sérgio Moro en train d'influencer l'enquête, orienter le travail des procureurs. Il a suggéré, par exemple, un témoignage d'une personne qui pourrait dévoiler des informations défavorables à l'ancien président Lula. Donc, la constitution brésilienne, elle est très claire. Un juge ne doit pas prendre parti lors de l'instruction de l'enquête.
Donc, visiblement, le juge aurait violé la loi et la constitution. Est-ce que ça veut dire que la condamnation de Lula peut être annulée?
En fait, ça dépend de la décision du ministre de la Cour suprême. En fait, les avocats de Lula ont déjà présenté un recours pour la Cour suprême, justement pour dénoncer la suspicion du juge Sérgio Moro. Ça date d'il y a un an, cette demande. Et un des ministres juges de la Cour suprême a demandé un peu plus de temps pour analyser ce recours, cette demande. Mais il a décidé de reprendre en fait les débats le 25 juin. Donc les débats seront déjà enrichis avec ces révélations des sites Intercept Brésil. Donc c'est sûrement des juges, des ministres de la Cour suprême, la décision. S'ils décident, s'ils acceptent la demande de défense de la défense de Lula, si le juge n'a pas été impartial, donc ces décisions comme la condamnation de Lula pourront être annulées et donc la porte sera ouverte pour la libération de l'ancien président Lula.
Le feuilleton est donc loin d'être terminé. Quel avenir pour l'ancien juge Moro, désormais ministre de la Justice de Jair Bolsonaro? Est-ce qu'il va démissionner comme le réclament de nombreuses voix?
Donc il a dit qu'il ne va pas démissionner, déjà il a annoncé ça, mais lui-même il a demandé d'être entendu par une commission de justice au Sénat brésilien. Donc cette audience est marquée pour, est fixée pour mercredi. De toute façon, la première réaction du juge Sérgio Moro, c'était justement de dire que ces informations, il n'y a rien d'anormal dans ces échanges avec les procureurs.
Il n'a pas nié, en fait,
les contenus de ce qui a été dévoilé par les sites Intercept.
Donc il reconnaît les propos tenus et dévoilé par la presse, mais il minimise l'ampleur de ces révélations. Il dit que ça n'a rien d'anormal.
Dans un premier temps, il a dit qu'il n'avait pas rien d'anormal, mais après, il a mis un doute sur une supposée manipulation de ces informations. De toute façon, l'image du juge Sérgio Moro est affaiblie, est affectée. Et en fait, il a l'ambition affichée déjà de siéger à la Cour suprême. Donc, ces révélations vont créer beaucoup d'obstacles pour qu'il puisse un jour siéger à la Cour suprême.
Marius, a-t-on répondu à vos questions?
Tout à fait, merci beaucoup.
Bonne journée à Abidjan et un grand merci à Elcio Ramalho de la rédaction brésilienne. À bientôt.
Merci, bonne journée à vous.
33 9 693 693 70. Des questions maintenant sur l'Algérie. Yabao, on va l'appeler dans un instant, mais alors l'Algérie, où est ma petite fiche? Lapso, voilà, merci beaucoup. Lapso, bonjour.
Bonjour, Juan.
Vous êtes à Mora, dans l'extrême nord du Cameroun. On vous écoute.
Exactement. La semaine passée, deux ex-premiers ministres algériens, Ahmed Ouya et Abdel Malek Selal, sont arrêtés et mis en détention provisoire en Algérie. Alors, M. Wang, j'aimerais savoir, quel est-il reproché? La deuxième est, que risque-t-il, ces deux premiers ministres?
Alors, effectivement, c'est une scène inimaginable. Il y a encore 4 mois, deux anciens premiers ministres, deux proches d'Abdelaziz Bouteflika ont été placés en détention provisoire. Bonjour Kader Abderrahim.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes maître de conférence à Sciences Po Paris, directeur de recherche à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Ces deux anciens premiers ministres, désormais écroués dans une prison située dans la banlieue d'Alger. Concrètement, de quoi sont-ils accusés?
Ben, l'un et l'autre sont accusés de dilapidation d'argent public et de corruption, et de faits de corruption selon le juge qui mène l'enquête. Et donc ce sont des faits évidemment très graves. La population voyait vivre et agir ces deux hommes, entre autres, mais ils ne sont pas les seuls. Et donc elle était déjà convaincue que leur traitement de Premier ministre était très largement insuffisant pourvu sur le pied sur lequel il vivait.
Il risque jusqu'à 20 ans de prison?
Oui, théoriquement, c'est la peine qu'ils encourent. Après, dans les faits, on verra également comment la situation évolue politiquement, pour voir si cette instruction peut réellement être menée à son terme, ce qui serait une première en Algérie.
Mmh, effectivement. Lapso, vous aviez une dernière question.
Pardon ?
Vous aviez une dernière question, Lapso ?
Oui, oui, j'ai une dernière question, monsieur Wan.
Allez-y.
Sinon, peut-on parler du purge de l'ancien régime d'Abdel Bouteflika ?
Peut-on parler d'une purge ? Alors, vous le disiez à l'instant, Kader Abderrahim, nous parlions de ces deux anciens premiers ministres, mais il y a d'autres personnalités, des hommes d'affaires, des hauts responsables de l'État, d'autres anciens ministres qui sont aujourd'hui poursuivis par la justice. Faut-il y voir une purge, pour reprendre les propos de notre auditeur ?
Oui, et rappeler le frère de l'ancien président lui-même, Saïd Bouteflika, qui est actuellement toujours en prison. Est-ce qu'on peut voir une purge ? Je pense que c'est des règlements de compte entre différents clans du pouvoir, compte tenu de la très grande mobilisation depuis le 22 février de la population algérienne. Et on a vu le week-end dernier, vendredi précisément, qu'il y avait un certain nombre de personnalités qui se sont réunies pour mettre au point une plateforme de transition politique et de transition démocratique. Donc je pense que c'est la nature de cette transition qui pourra nous dire si, évidemment, on a affaire à une volonté de purge et de règlement de compte, où il s'agit vraiment de faire en sorte que la justice passe et que, enfin, la justice puisse accomplir son travail. Je crois que ça ferait une différence considérable, et encore une fois, ce serait vraiment une première en Algérie depuis son indépendance en 1962.
Ouais. Hier, encore, deux anciens ministres ont été auditionnés et placés sous contrôle judiciaire. Il s'agit notamment de Karim Djoudi, qui était au ministère des Finances de 2007 à 2014, Amar Tou, qui a dirigé le ministère des Transports de 2008 à 2013. Malgré tout, ces poursuites ne semblent pas contenter les manifestants.
Oui, absolument, vous avez raison de le souligner. Les Algériens ne sont pas dupes. Ils voient bien qu'il s'agit là de livrer en pâture des hommes pour des faits présumés de corruption. Mais on n'en apporte pour le moment aucune preuve. On verra par la suite, c'est un peu tôt. Mais dans l'immédiat, ce que veulent les Algériens, c'est un véritable projet de transition démocratique, et c'est ce pourquoi ils continuent à se mobiliser, et ils ne se contenteront pas d'avoir en pâture quelques hommes qui seront livrés parce qu'ils auront été affaiblis compte tenu de la situation actuelle.
Merci beaucoup Kader Abderrahim d'avoir pris quelques minutes ce matin, maître de conférence à Sciences Po Paris. On salue évidemment Lapso hein, qui nous appelait de Lomé au Togo. On avait prévu des questions sur les tensions dans le détroit d'Ormuz. Yabao, ne vous inquiétez pas, on vous rappellera évidemment demain et on vous donnera toutes les explications, d'autant qu'on voit bien que le ton monte. Après les États-Unis, ce sont le Royaume-Uni et l'Arabie Saoudite qui accusent l'Iran d'avoir attaqué deux pétroliers la semaine dernière en mer d'Oman, et on verra évidemment quelles en sont les conséquences aujourd'hui. Donc Yabao, pas d'inquiétude, vous continuez évidemment à nous appeler, on a besoin de connaître vos questions avant de démarrer l'émission pour contacter justement nos experts ici à Paris au sein de la rédaction, nos envoyés spéciaux, nos correspondants à travers le monde. Un seul numéro, 33 9 693 693 70. Allez, 12 minutes maintenant, nous parlerons football. Et ce sera la première d'une longue série d'émissions, puisque la Coupe d'Afrique des Nations commence dans tout juste 4 jours. Ce sera vendredi en Égypte. 24 équipes sélectionnées. C'est une grande première dans l'histoire de la CAN. L'occasion ce matin, évidemment, de dresser un état des lieux du football africain. Vous êtes très nombreux, je le disais tout à l'heure, à vous mobiliser en République démocratique du Congo pour soutenir les Léopards. Quelques réactions, et je suis ravi, de la Mauritanie. Merci auditeur mauritanien de nous contacter. La Mauritanie qui, pour la première fois de son histoire, participe à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. On a envie évidemment de vous entendre, et puis on a des réactions, mais c'est un classique. Les Camerounais, les Ivoiriens, les Sénégalais nous appellent également pour défendre les couleurs de leur sélection. 33 9 693 693 70. Dites-nous, mais en toute sincérité, si votre pays a des chances de remporter le trophée, la CAN 2019. On en parle ensemble juste après le journal. Je cède la parole à l'ensemble du service Afrique de RFI.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.